On retrouve maintenant Mme Marie Gagnon-Brousseau, orthophoniste de clinique d'excès technologique du Centre de réadaptation Lucie Bruno à Montréal. Bonjour, Mme Gagnon-Brousseau.
Bonjour, Mme Pellerin.
Comment ça va?
Ça va bien, vous-même?
Ça va, merci. Donc, vous allez nous parler de l'intelligence artificielle qui améliore les perspectives avec la synthèse vocale.
Oui, ça va me faire plaisir.
Pouvez-vous d'abord nous dire quelles sont vos tâches comme orthophoniste à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucie Bruno?
Oui, écoutez-moi, en tant qu'orthophoniste à la clinique, mon objectif, c'est vraiment de suivre l'avancement des technologies pour répondre aux besoins de nos usagers, surtout sur le plan de la communication, comme je suis orthophoniste. Donc, notamment, on travaille là avec des gens qui ont le plus souvent des atteintes là, de la parole, donc avoir des difficultés à parler, et aussi très souvent associés à des difficultés motrices aussi, donc avoir de la difficulté soit à bouger les bras, les jambes et plusieurs parties de leur corps. Donc, souvent, c'est associé là, à des paralysies importantes. Mon travail, c'est de m'assurer que malgré les difficultés de parole, les gens peuvent quand même continuer à communiquer avec leur entourage. Je trouve important de mentionner que je ne suis pas la seule dans l'équipe, donc on travaille aussi de manière étroite avec des ergothérapeutes et un technicien en informatique. L'objectif en ergothérapie, c'est non seulement d'améliorer la communication, mais surtout d'améliorer l'autonomie puis l'accès à l'environnement. Donc, quand on parle d'aide technologique, là, c'est aussi que les gens puissent continuer à manipuler les choses de leur environnement. Donc, imaginez-vous, vous ne pouvez plus bouger les bras, mais comment est-ce que vous pouvez, par exemple, contrôler votre téléviseur, contrôler votre téléphone cellulaire ou même contrôler les lumières dans la maison, malgré les pertes, là, dans le fond. Là.
C'est sûr que l'autonomie au quotidien en dépend, bien sûr. Et vous nous parliez donc de... En fait, c'est moi qui parlais d'une voix de synthèse. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une voix de synthèse?
Oui, définitivement. En fait, comme je le disais, imaginez-vous, par exemple, que vous avez un diagnostic, par exemple, de maladie évolutive qui fait que vous perdez graduellement l'usage de la parole. C'est sûr qu'éventuellement, quand la parole devient très, très difficile à comprendre, ben, la plupart de nos usagers qu'on voit à la clinique vont finir par utiliser un appareil de communication. Donc, pour venir compenser, pour venir même remplacer leur parole naturelle, ils vont utiliser une tablette ou un ordinateur pour pouvoir écrire à l'écran ce qu'ils veulent dire et pouvoir le faire prononcer à voix haute par, justement, une voix de synthèse. Donc, la voix de synthèse, en fait, c'est quoi? C'est essentiellement une voix d'ordinateur qui permet de faire prononcer à voix haute des messages écrits. Donc, le meilleur exemple concret de ça, c'est par exemple quand on utilise un GPS ou quand notre téléphone nous parle, ce sont des voix de synthèse. Donc, ce sont des voix, oui, d'ordinateur, mais qui s'apparentent quand même à la voix humaine, qui ont une sonorité humaine.
Et justement, ça s'est amélioré, en fait, leur ressemblance avec les voix humaines.
Oui, définitivement. Dans les 15 dernières années, là, les 10 ou les 15, ça fait, je vous dirais, ça fait 8 ans là, que je suis orthophoniste dans le domaine, donc je ne veux pas m'avancer des fois ce qui s'est fait avant que je commence dans le domaine, mais j'ai un exemple concret de ça. Là. Tout le monde connaît là, Stephen Hawking là, qui avait la sclérose latérale amyotrophique. Il utilisait lui-même une synthèse vocale et un appareil de communication. Et pour ceux qui ont déjà entendu sa voix de synthèse, elle était très robotique et elle sonnait, disons, en bon québécois, un peu cacane.
Hein? Oui, donc, clairement.
C'est ça, vous avez la référence. Donc, on savait que c'était un ordinateur là, qui parlait. Donc, je vous dirais, dans les dernières années, ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est effectivement la qualité des voix de synthèse, donc oui, qui ressemblent de plus en plus aux réelles voix humaines, mais aussi ils se sont améliorés sur le plan de l'intonation. Donc, l'intonation va paraître un petit peu plus naturelle. Et aussi, à mes yeux, ce qui est important, c'est que ça s'est amélioré sur l'aspect compréhensible. Donc, la voix de synthèse va être plus intelligible, va être plus facilement comprise de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il n'y aura pas là, cette sonorité robotique là, qui vient des fois altérer notre compréhension de ce qu'il dit.
C'est sûr que ça aide la compréhension, on comprend tous, mais au-delà de la compréhension, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une voix qui est plus humaine, qui est moins robotique au niveau de vos patients? Qu'est-ce qui vous rapporte comme sentiment par rapport à ça?
Oui, c'est sûr que les usagers seraient les mieux placés pour répondre, mais je pense que le plus important là-dedans, c'est tout ce qui a trait à l'acceptabilité sociale et à l'inclusion sociale. Donc, si je fais un appel téléphonique ou je vais au dépanneur acheter ma pinte de lait et que j'utilise un appareil de communication pour communiquer et que la voix qui en sort sonne davantage humaine, bien, la personne qui est devant moi ou qui est au bout du fil va être beaucoup plus ouverte à écouter mes propos. Il va peut-être être moins surprise là, de l'utilisation que je fais de mon appareil pour communiquer.
Donc, dans les faits, ça apporte une relation qui est plus facile. C'est plus facile d'entrer en relation.
Oui, oui, je pense que vous avez les bons mots.
Et qu'est-ce que les voix de synthèse apportent de plus aux patients? Vous avez parlé, bien sûr, de l'autonomie au jour le jour, donc au quotidien, mais ça apporte également, là, j'imagine, une facilité à exprimer ses besoins.
Oui, définitivement, parce que là, on parle de la voix de synthèse. Donc, essentiellement, la voix de synthèse, c'est la voix d'ordinateur qui me permet de prononcer mon message. Et comme vous le nommez bien, au-delà de ça, le plus important, c'est carrément de pouvoir communiquer, point. Donc, le fait de pouvoir écrire son message et de le faire prononcer, alors que avant d'avoir cette possibilité-là, la personne se faisait jamais comprendre, ne pouvait jamais entrer en relation avec les autres parce qu'elle devait répéter peut-être 40 fois sans jamais se faire comprendre. Ou il y a des gens que malheureusement, la parole est tellement atteinte qu'ils ne peuvent parfois même plus émettre aucune parole là, qui serait compréhensible même de leurs plus proches parents. Donc souvent, le fait d'utiliser un appareil et un logiciel qui nous permet vraiment de faire prononcer nos messages et de les écrire, bien carrément, c'est que ça brise l'isolement et ça rétablit une communication qui était absente.
J'imagine aussi qu'il y a un deuil à faire pour les personnes qui avaient une parole qui était plus compréhensive à une époque puis qui a perdu la notion de la parole. Donc, est-ce que ça aide le deuil? Est-ce que ça aide à passer au travers du deuil d'avoir justement des moyens de communiquer autrement?
Quelle excellente question. Je pense que pour certains, ça peut définitivement aider à passer au travers du deuil parce que ça rétablit la communication. Et je pense que pour d'autres, ça peut aussi être assez confrontant de dire, ben moi, je connais ma parole d'avant, je sais ce que je pouvais dire très rapidement. Hein, parce que quand là, je vous parle à une vitesse assez élevée, n'est-ce pas? Donc, je me souviens, c'est quand on a des diagnostics où la parole se dégrade dans le temps, ben je me souviens que je pouvais faire une blague ou je pouvais faire du sarcasme très rapidement. Et maintenant, avec ma voix de synthèse, avec mon appareil, ben c'est plus long. Je dois écrire à l'avance ce que je veux dire. Je dois préparer mes messages d'avance. C'est peut-être moins de spontanéité. Et en plus, la voix qui sort de mon appareil, ben c'est pas nécessairement l'intonation que j'aurais voulu lui donner, ou c'est pas nécessairement ma voix non plus. Hein? C'est une voix un peu générique, ou ça va être une voix de femme, ou tout ça. Donc, pour certains, au lieu d'aider au deuil, ben ça peut être assez confrontant. Et si vous me permettez, j'ajouterais que même parfois, certaines personnes, malgré que la parole soit difficile à comprendre, vont nous dire, écoutez, c'est une belle solution, la voix synthèse, c'est une belle solution, là, votre appareil, mais pour le moment, je n'en veux pas parce que je me fais encore comprendre, même si c'est difficile, même si je dois répéter, mais je préfère encore utiliser ma parole naturelle et ça me convient comme ça parce que j'ai développé mes trucs avec mon entourage. Donc, des fois, l'appareil de communication, c'est pas nécessairement la première solution ou la panacée non plus, là.
Non, ben ça fait pas de miracle. En fait, là, j'imagine, puis comme vous dites, ça doit être assez long, surtout pour une personne qui a des problèmes de mobilité, d'écrire sur un ordinateur, donc une phrase, ça peut prendre, j'imagine, à quelques secondes, même quelques minutes, non?
Tout à fait. Vous le nommez bien, puis c'est là où c'est intéressant de dire la notion d'accessibilité. C'est-à-dire, on nommait tantôt quand on travaille en collaboration avec les ergothérapeutes. Imaginez-vous, justement, quelqu'un qui perd la parole, mais qui perd aussi l'usage des mains.
Oui.
Bien là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Donc, effectivement, la personne, pour pouvoir finalement écrire son message, ne va pas utiliser ses mains. Elle ne pourra pas taper au clavier, elle ne pourra pas taper à l'écran son message. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les accès alternatifs. Et comme vous le nommez bien, ces accès-là qu'on dit alternatifs sont beaucoup plus lents. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas bouger les mains, mais qui pourrait encore bouger la tête, par exemple, ou bouger les yeux, pourrait utiliser contrôler son ordinateur avec son regard, par exemple, ce qu'on appelle le contrôle à l'œil. Il pourrait encore contrôler son ordinateur avec un mécanisme de souris à la tête. Donc, en bougeant la tête, l'ordinateur capterait le mouvement, puis la personne pourrait à ce moment-là écrire sur un clavier là, visuel à l'écran. Certaines personnes qui ont des très petits mouvements des mains pourraient aussi utiliser un interrupteur, donc un petit bouton sur lequel ils cliqueraient là, pour aller sélectionner des messages à l'écran. Donc, imaginez-vous tout le temps que ça peut prendre juste pour dire bonjour ou pour saluer quelqu'un.
En même temps, vous le dites, hein, c'est vraiment le fait de l'offrir puis de voir les personnes que ça aide, puis les personnes qui sont à l'aise avec ça, et d'un autre côté, puis les personnes qui ne sont pas à l'aise, bien, se le font offrir et pourront y retourner si jamais ils en sentent besoin plus tard. Là.
Définitivement, et c'est ça notre travail, hein, c'est de présenter ce qui est disponible, de rester à l'affût des nouveautés, d'offrir les possibilités aux gens, puis après coup, c'est un travail d'équipe avec l'usager. Puis, je trouve que ça m'amène à quelque part, là, cette conversation, c'est aussi que des fois, on parle d'appareils technologiques. Mais des fois, les solutions qui sont retenues ne sont pas toujours technologiques. Hein. Des fois, on va présenter l'ensemble des solutions, puis quelqu'un va, pour une raison XY, là, selon ses besoins, puis selon ses capacités, va choisir une solution qui est dite non technologique ou de base technologie. Donc, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui peut encore écrire papier-crayon va peut-être juste écrire ce qu'il veut dire sur un bout de papier puis le faire lire à la personne devant lui. Puis ça va avoir ça va être très efficace, ça va fonctionner. Ou encore quelqu'un qui ne pourrait plus écrire là avec un crayon parce que la mobilité est plus difficile, mais qui pourrait pointer, par exemple, imaginez-vous là, les carrés de l'alphabet, là, donc toutes les lettres de l'alphabet sur un papier, puis pourrait carrément aller pointer les lettres de l'alphabet sur le papier et épeler des messages comme ça assez rapidement. Des fois, c'est des solutions qui sont retenues, puis on ne va pas se leurrer. Un papier, un crayon, un alphabet papier, ça n'a pas besoin d'être chargé, ça ne brise jamais. Donc, des fois, c'est aussi une solution de rechange qui est intéressante quand l'appareil technologique est brisé ou ne fonctionne pas.
Des fois, c'est les bonnes vieilles méthodes qui deviennent les plus intéressantes, mais ça, comme vous le dites, ça dépend vraiment des usagers. Merci beaucoup, Mme Gagnon-Brousseau. Vous êtes donc orthophoniste à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Merci d'avoir été avec nous.
Bien, ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation.
Merci.